de santé 88.4.
Bonjour et bienvenue dans la deuxième émission d'Enjeux de santé consacrée au VIH et au SIDA. Vous avez loupé la première partie, pas de problème, elle est bien sûr toujours disponible en podcast sur radiocampusrennes.fr/ENJE. Et comme lors de la première émission, c'est le docteur Arvilleux, médecin infectiologue et président du COREVI, la coordination régionale de la lutte contre le VIH, qui répondra à nos questions. Et la première concerne le dépistage. Et oui, où peut-on se faire dépister en Bretagne ?
Alors, vous avez des centres de dépistage dans tous les départements. Ce n'est pas les principaux, en termes de nombre de dépistages réalisés, ce n'est pas les principaux endroits en France, puisque ceux qui dépistent le plus, finalement, c'est les médecins généralistes. Donc, on peut se faire dépister chez son généraliste. On peut se faire dépister directement au laboratoire, éventuellement. On peut se faire dépister dans les centres de dépistage où ça a l'avantage d'être gratuit et éventuellement anonyme. Et puis... Il y a des associations qui proposent du dépistage, notamment pour essayer ce qu'on appelle du dépistage communautaire. Et on a mis en place depuis quelques mois maintenant, un peu plus d'un an, du dépistage avec ce qu'on appelle des tests rapides d'orientation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de prise de sang, on fait une petite piqûre au bout du doigt, on met ça sur une bandelette, et puis ça permet, c'est assez fiable, c'est pas aussi fiable que les tests classiques, mais c'est quand même très très fiable. Et ça permet, si la personne est positive pour ce test-là, de l'orienter vers une sérologie, un test plus complet, en sachant qu'il y a peu de discordance en pratique. Donc les personnes qui sont séropositives avec leur test rapide, dans l'immense majorité des cas, on confirme avec les tests standards, quoi.
Quelle est votre action ici au Centre de coordination régionale de la lutte contre le SIDA ?
Alors... Donc, en fait, le COREVI, c'est la coordination régionale de la lutte contre le VIH, parce qu'on essaye justement, le terme est important, c'est que l'objectif aujourd'hui, on a tous les moyens pour que le sida n'existe plus. C'est-à-dire que si les personnes étaient dépistées suffisamment précocement, finalement, le sida serait plus un problème, parce qu'avec les traitements dont on dispose, si les gens ont la possibilité d'avoir accès au traitement, donc accès au dépistage et accès au traitement, on ne verrait plus de sida. C'est ce qu'on appelle classiquement la pyramide ou la cascade de la prise en charge. On sait qu'en France, il y a à peu près 130 000 personnes qui sont infectées par le VIH. Et on sait que dans ces 130 000 personnes-là, il y en a à peu près 25 000 à 30 000 qui ne connaissent pas leur séropositivité. Donc déjà, finalement, sur les 130 000, il y en a 30 000 qui vous échappent. Donc on va reprendre les 100 000 qui connaissent leur séropositivité à peu près, j'arrondis. Vous en avez quand même quelques-uns qui connaissent leur séropositivité, mais qui ne sont pas dans le circuit de soins. Donc, ces gens qui n'ont pas souhaité ou à qui on n'a pas su proposer les bonnes conditions pour qu'ils se fassent suivre. Donc, on va perdre 10 à 15% à ce niveau-là. Et dans ceux qui sont dans le circuit de soins, vous en avez un certain nombre qui ne sont pas traités. Et donc, finalement, quand vous regardez... Si l'objectif, c'est que tous les patients séropositifs n'aient plus de virus qui circule, eh bien, en France, on est à peu près à 50%. C'est-à-dire, si on prend les 130 000, on a à peu près 50% de ces patients-là actuellement qui sont sous traitement et qui ont un traitement qui a un succès qui fait qu'on n'a plus de virus circulant. Alors, c'est très bien du point de vue santé publique, parce que si on se compare par rapport à d'autres pays industrialisés, pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis sont en dessous de 22%. C'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise... politique de dépistage, qui n'est pas mauvaise, mais elle est pas à l'échelle de l'importance de la maladie dans leur pays. Et surtout, ils perdent énormément sur l'étape prise en charge. C'est-à-dire que des personnes qui se connaissent séropositives, il y en a énormément qui ne sont pas en soins et pas traitées, pour des raisons qu'on connaît, de couverture d'assurance maladie, etc. Donc ils perdent énormément à ce niveau-là. Chose qu'on perd très très peu en France. On a très peu de pertes. On tape beaucoup sur la qualité de notre système de santé. Mais quand on regarde sur des indicateurs comme ça, on s'aperçoit qu'on a vraiment très peu de pertes entre les gens qu'on dépiste et les gens qu'on met dans le soin. Et ça, c'est vraiment tout à fait... ça prouve la qualité du système. Et donc le rôle du COREVI, c'est, je dirais, un peu de maintenir cette qualité-là en pratique et de la maintenir au niveau régional, c'est-à-dire de faire à ce que c'est pas parce qu'on habite voilà, dans un petit village du centre Bretagne qu'il faut pas qu'on ait du tout d'accès au dépistage. Il faut qu'on mette en place des moyens pour que les gens puissent se faire dépister s'ils en ont besoin, s'ils en ressentent le besoin. Donc par exemple, dans les endroits où il n'y a pas de centre de dépistage, on va aller plutôt sensibiliser les médecins généralistes au dépistage. Dans des endroits où il y a des centres de dépistage mais qui ne touchent que des populations qui sont pas très à risque, c'est le cas à Rennes. Sur les 4000 dépistages que fait le centre de dépistage de Rennes, il y a plus de 3500 personnes qui ont finalement très 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 peu de facteurs de risque. Donc on va inciter à ce qu'il y ait des actions qui soient faites pour aller vers les personnes qui ont le plus de risques, donc avec les associations d'usagers, avec un certain nombre de partenaires. On va mettre en place ce qu'on appelle du dépistage mobile pour aller vers des populations précarisées, éventuellement vers la prostitution. On sait qu'il y a beaucoup plus de risques d'attraper le VIH. Voilà, donc c'est des actions pour aller au plus près des populations qui sont les plus concernées. Et l'avantage d'avoir une structure comme le Corévi, c'est qu'on a des données régionales, c'est-à-dire qu'on sait par exemple exactement, pour toutes les personnes qui sont nouvellement découvertes séropositives en Bretagne, on sait comment elles se sont contaminées. Donc on sait aujourd'hui par exemple que chez les hommes, on a encore 55% d'hommes qui se contaminent par rapport homosexuel, alors que ça représente qu'une toute petite pourcentage de la population. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas bon dans la prévention à ce niveau-là, quoi. C'est qu'on n'a pas réussi, c'est pas que l'information passe pas, parce que la plupart des gens sont assez bien informés, mais ça n'a pas réussi à se transformer en attitude de prévention. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Si vous prenez le Corévi qui s'occupe de la Seine-Saint-Denis, par exemple, où on travaille beaucoup avec nos collègues de Bobigny, eux, la problématique, c'est vraiment les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne ou qui sont mal informés, où il y a beaucoup de non-dits autour du VIH, et donc les actions vont être très différentes. Donc l'idée d'avoir des coordinations régionales, c'est que chacun puisse adapter ses actions, mettre le paquet un peu sur ce qui lui paraît être prioritaire dans son épidémie locale, et puis ensuite d'échanger avec les autres. Si on a fait une action intéressante qui nous paraît productive, on va pouvoir la partager avec d'autres structures qui n'ont pas besoin de tout recommencer, tout réécrire. Donc il y a beaucoup de partage entre les différentes structures régionales à ce niveau-là. C'est un système le système d'échange fonctionne assez bien.
Le traitement est-il pris en charge par la sécurité sociale ?
Oui, alors non seulement le traitement, mais toute la prise en charge, parce qu'il y a à la fois les médicaments, mais il y a le suivi médical, il y a le coût de la biologie qui est quand même pas négligeable derrière. Le VIH fait partie de ce qu'on appelle des affections de longue durée. Donc c'est une maladie qui dispose dans le jargon, d'une exonération du ticket modérateur. Ça veut dire que vous êtes remboursé à 100% par l'assurance maladie sans avoir besoin de passer par une mutuelle pour les remboursements complémentaires. Donc c'est toutes les maladies chroniques, ça va être le cancer, ça va être le diabète qui est dans cette situation-là également. Donc le VIH fait partie de ces pathologies-là. Donc les gens n'ont pas à payer leurs médicaments, c'est un arrangement direct entre les pharmacies et l'assurance maladie, parce que les coûts des traitements sont assez chers. Une trithérapie aujourd'hui en France, c'est facturé à l'assurance maladie de l'ordre de 700 euros par mois. Donc ça, c'est quand même des coûts qui sont quand même assez élevés. Ça n'a rien à voir avec le coût de fabrication du médicament, hein, puisque les mêmes médicaments, quand on les achète chez des génériqueurs en Inde, où ils sont d'excellente qualité, on est sur des coûts de l'ordre de 20 dollars, donc de 15 euros. Donc vous voyez qu'entre 15 et 700 euros, il y a quand même une différence. Donc c'est vraiment qu'une question de négociation entre l'assurance maladie et les firmes qui fabriquent les médicaments pour payer les coûts de production, les coûts de recherche. Alors que pour les pays en développement, on considère qu'on ne leur fait pas assumer ces coûts-là et que la seule chose qu'ils payent, c'est le coût de fabrication du médicament dans sa partie finie, on va dire. Donc c'est important qu'il y ait une bonne couverture maladie, puisque en France, on est quand même dans des soins qui sont relativement onéreux. La prise en charge d'un séropositif, ça a été calculé. D'ailleurs, c'est le coût est calculé parce que quand vous faites par exemple des campagnes de prévention, on a dit à un moment il faudrait dépister tout le monde une fois en France, c'est-à-dire tous les généralistes dépistent toute leur clientèle. Ça a un coût important, et donc, puisque chaque test de dépistage, les consultations, tout ça, ça a un coût important. Et donc, on regarde dans ces cas-là si on est coût efficace. On regarde pour une infection dépistée tôt, qu'est-ce qu'on va gagner en termes d'argent, parce que c'est important en termes de santé publique de savoir où c'est qu'on met le financement. Est-ce qu'on va le mettre dans le traitement? Est-ce qu'on va le mettre dans la prévention? Est-ce qu'on va le mettre dans la prise en charge? Donc, on fait des coûts, des calculs de coûts pour chaque pathologie de cette façon-là. Donc, pour le VIH, comme on est aujourd'hui dans une pathologie chronique où les traitements sont très chers et vont durer très longtemps, du coup, c'est très coût efficace de prévenir. Parce que même si on met beaucoup d'argent dans la prévention, ça coûte tellement cher une fois que les gens sont infectés que mettre le paquet sur la prévention, c'est un élément important.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la syphilis. Comment vous expliquez, on va dire, une médiatisation importante autour du VIH, contrairement peut-être à d'autres maladies, d'autres MST ?
Pour la syphilis, c'est un phénomène plus récent. Donc je pense qu'elle sera peut-être médiatisée un petit peu plus tard, on va dire. L'épidémie reste assez confinée actuellement chez les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes, mais on sait dans ces cas-là qu'il y a des expansions épidémiques qui se font vers l'ensemble de la population en général dans un second temps. Ça avait été le cas pour le VIH au départ. Hein. Donc je pense que le VIH a il y a plein de choses autour du VIH qui font que c'est une maladie très discriminante, on va dire. Donc il y a la question de la transmission sexuelle, il y a la question de l'interdit, il y a la question... C'est vrai que c'est une maladie qui cumulait sur sa tête quand même beaucoup de choses. Au début, quand elle a été décrite, c'était les homos, les noirs, les toxicomanes. Alors je veux dire, dans une société qui peut être un peu puritaine, je veux dire, c'est assez facile d'en faire un épouvantail rapidement. Alors... Je dis ça, c'est le cas pour les sociétés industrialisées européennes, mais par exemple en Afrique, il y a un tabou sur le VIH qui est énorme encore, alors qu'il n'y a que la transmission hétérosexuelle et que, voilà, là, on va dire que le rapport sexuel en soi, c'est quand même quelque chose de très naturel, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait lui reprocher. Et donc, dans beaucoup de pays africains, y compris dans les pays où il y a des prévalences très élevées, moi, je suis toujours extrêmement choqué de voir qu'au Swaziland, où il y a presque 30% de la population qui est infectée par le VIH, c'est-à-dire une personne sur trois est infectée par le VIH, il y a encore une discrimination majeure des séropositifs par l'ensemble de la population. Alors que quasiment tout le monde est concerné, tout le monde a dans sa famille, tout le monde a dans ses amis, tout le monde a quelqu'un de séropositif, et malgré tout, il y a des tabous majeurs autour de ça. Alors il y a pas mal de chercheurs qui travaillent là-dessus pour essayer de voir par quelle piste on pourrait évoluer, mais c'est pas évident, ça reste vraiment très, très profondément ancré. Et il y a une question de leadership politique. Quand vous voyez comme un pays comme l'Afrique du Sud, où il y a 10 millions de séropositifs aujourd'hui, dans les années 2000, le président d'Afrique du Sud, qui avait succédé à Nelson Mandela, là, Thabo Mbeki, disait que le VIH n'était pas responsable du sida. Et que le responsable du sida, c'était les Blancs, c'était l'industrie pharmaceutique, c'était donc des trucs complètement incohérents. Ils ont pris 10 ans de retard sur la prise en charge des personnes. Donc quand vous avez des politiques qui ont des discours de ce type-là, ça renforce toutes les questions de tabous et de choses comme ça qui font que les choses évoluent peu. Donc non, il y a encore un travail énorme. Si on a réussi, je dirais, à avancer très bien sur le traitement, sur la prise en charge, sur la lutte contre les discriminations, alors là, on est dans l'échec total. Hein. C'est extraordinaire de voir que 30 ans après le début de l'épidémie, on est quasiment à la case départ en termes de discrimination et de la façon dont le VIH est vécu. Quoi.
C'était Smokey Joe and the Kid avec le titre Marluche. Nous sommes toujours avec le docteur Arvilleux, médecin infectiologue et président du Corévi. Après avoir posé des questions sur le dépistage et le traitement contre le sida, quel est l'avis du docteur Arvilleux sur l'image qu'a le sida dans la société française? Est-elle toujours taboue? Les mentalités ont-elles évolué depuis la découverte du virus?
Malheureusement, j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas vu énormément d'évolution. Alors, il y a, très régulièrement, il y a des enquêtes nationales qui sont faites, qu'on appelle KABP, qui sont des enquêtes de connaissances sur les infections sexuellement transmissibles, sur le VIH. Et jusqu'à présent, chaque année, les gens avaient un petit peu de meilleures connaissances que l'année précédente sur comment se protéger du VIH, le préservatif, etc. Et cette année, de façon assez étonnante, chez les jeunes, je crois que c'est la tranche 15-19 ans, pour la première fois, on a vu une aggravation du score. C'est-à-dire que cette année, les gens ont moins bien répondu sur ces questions-là que ce qu'avaient répondu les gens de la même classe d'âge il y a 2 ans. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant, parce que ça veut dire que finalement, il y a de l'information qui ne passe pas très bien. Alors, il y a toujours 25% des gens qui pensent que, par exemple, le VIH se transmet par les piqûres de moustiques. Donc ça reste un truc qui est assez stable hein, chaque fois qu'on fait une enquête. Et par rapport à la discrimination, on ne voit pas vraiment d'évolution. On ne voit pas de révolution à ce niveau-là. On peut peut-être en parler plus facilement. Je pense que dans la population jeune, il y a effectivement peut-être moins la crainte du VIH et de ce que représente le VIH. Typiquement, il y a un exercice qu'on devrait faire chaque année pour voir comment les choses évoluent. C'est dans une école dire, voilà, il y a un enfant séropositif. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelques années, on était confrontés au problème parce qu'on avait des enfants séropositifs. S'il y avait la moindre fuite sur le fait que l'enfant était séropositif, on avait des problèmes majeurs. C'est-à-dire que la moitié des parents voulaient retirer les enfants de leur classe. Il fallait qu'il y ait des mesures d'hygiène complètement drastiques qui soient mises en place, etc. Alors qu'il n'y a aucun risque de transmission. Je veux dire, c'est pas une maladie, c'est pas la rougeole ou c'est pas la varicelle. Les enfants, ils attrapent pas le VIH en se faisant des papouilles, quoi. Donc, et bien que les gens connaissent les risques de transmission et des connaissances là-dessus, on reste sur des craintes irrationnelles. Alors c'est vrai que nous, on voit moins aujourd'hui des choses qu'on voyait il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on avait énormément de difficultés pour trouver des chirurgiens. Alors qu'on connaissait déjà bien les modes de transmission, on avait énormément de difficultés pour trouver des chirurgiens qui acceptent d'opérer les malades, qui disaient « moi, je ne veux pas ramener ça à la maison ». Voilà, donc alors que les risques, on les connaissait, on les assumait, quoi. Hein, donc ça a évolué, mais dans la population générale, je crois qu'il y a encore beaucoup de tabous. Et il y a malgré tout quelque chose qui est un peu entretenu par les patients eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une auto-discrimination qui est extrêmement importante. Alors ça, c'est très compliqué, hein, mais comme les gens se sentent discriminés, ils vont avoir tendance à en faire un peu plus. Vous avez des patients qui ne vont pas aller chercher leurs médicaments dans la pharmacie de chez eux, mais dans la pharmacie du bled d'à côté. Donc ça, c'est une forme d'autodiscrimination. Personne, ils n'ont pas eu de problème encore. Ils anticipent sur le problème qu'ils pourraient avoir. Et quand on fait comme ça, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à assumer le fait d'aller chez le pharmacien pour dire « je suis séropositif, comme on dirait, j'ai le diabète ». C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher son insuline au même endroit qu'on va aller chercher ses antirétroviraux. Donc ça, c'est une forme d'autodiscrimination. On essaie de travailler avec les patients là-dessus pour leur dire que c'est aussi, même si ça peut être des sacrifices des fois, parce qu'effectivement, parfois, ça peut mal se passer, c'est aussi du rôle des patients. Et dans les pays où ça a beaucoup évolué, c'est souvent des personnes séropositives politiquement... qui avaient un placement politique, médiatique, etc., important, qui, du fait de dire leur séropositivité, ont beaucoup fait avancer les choses. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, quand on discute avec les patients, il y a énormément de patients qui n'ont parlé à personne de leur séropositivité, ou vraiment à un cercle extrêmement, extrêmement restreint. D'un autre côté, on ne peut pas totalement leur donner tort, parce que ceux qui rapportent en avoir parlé plus largement, ils sont retrouvés des fois à des attitudes stigmatisantes qui sont vraiment extrêmement, extrêmement néfastes dans leur vie sociale.
toute autre question. Des études existent qui remettent en cause l'existence du VIH. Doit-on donner du crédit à ces études ?
Alors ça, c'est propre à... c'est pas propre au VIH, hein, c'est propre à toute la science, on va dire, officielle. À partir du moment où vous avez des connaissances scientifiques qui apparaissent, vous avez toujours, quasiment toujours, une contre-culture qui va essayer de démontrer que ce qui est dit par la majorité n'est pas vrai. Bon, alors l'exemple typique, c'était le 11 septembre, hein, voilà, du point de vue d'un événement médiatique, mais c'est vécu de la même façon pour d'autres pathologies. Il y a plein de maladies pour lesquelles il y a une contre-culture qui s'installe. Voilà, pour le VIH, c'est pas spécifique. Je reprends l'exemple de Thabo Mbeki là en Afrique du Sud dans les années 2000. Il s'était entouré de personnes qui avaient des discours de ce type-là. Il avait fait venir des chercheurs, notamment d'Europe centrale, qui développaient des théories très très fumeuses sur la façon dont le VIH agissait. Et ça, c'est catastrophique du point de vue. C'est-à-dire, le problème, c'est quand vous vous occupez de ça, vous vous occupez pas d'autre chose. Et pendant ce temps-là, il y a l'épidémie en Afrique du Sud était en pleine explosion. Donc bon, après que les théories existent, cette espèce de théorie du complot en disant bon, tout le monde dit que c'est le VIH qui donne le sida, finalement c'est pas ça, alors que je veux dire, on a je ne sais combien de millions de publications scientifiques qui montrent voilà, des choses qui sont faites doucement, sans intérêt ni industriel ni juste l'intérêt scientifique derrière. Donc je veux dire, on y porte peu de crédit. Là où ça peut être toxique, c'est effectivement si vous conjuguez cette fausse science à de la mauvaise gouvernance politique à l'échelle d'un pays, là ça peut faire effectivement des dégâts. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pense plus que personne ne suivrait à l'échelle politique, personne ne suivrait ce genre de chemin-là, notamment parce que la société civile est quand même très vigilante par rapport à ça. Il y a quand même ce qui a fait que les choses ont vraiment beaucoup avancé très vite dans le domaine du VIH, y compris dans les pays en développement, c'est l'implication de la société civile, des associations de patients, des personnes malades. Ça a fait... on a gagné quelques dizaines d'années, à la fois dans la recherche, hein, parce que ça a poussé la recherche, à la fois dans le fait que les... je dirais, à la base, c'est les homos américains qui se sont énormément engagés dans le combat contre le VIH, pour que ça soit financé, pour que ce soit accessible. Et dans les pays africains, c'est aussi la société civile qui s'est saisie de ça. Il y a plein de pays où, avant que l'État ne commence à se soucier du VIH, c'est la société civile qui a monté des projets pour soigner les gens, pour faire venir les médicaments. C'est des gens qui prennent leurs responsabilités pour la population, quoi. C'est pas toujours les États qui le font à leur place.
Et pour finir, quels sont vos vœux pour 2014 dans la lutte contre le VIH ?
Alors, les vœux 2014 dans la lutte contre le VIH, alors je ne vais pas reprendre les objectifs de l'ONU-SIDA, là, c'est les objectifs de 2015, mais c'est des objectifs qui sont quand même, on va dire, sympathiques, si on pouvait les atteindre. Aujourd'hui, on a les moyens de faire à ce qu'il n'y ait plus de transmission. On va dire préservatif traitement, ça veut dire plus de transmission. On a les moyens de faire à ce qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent infectés par le VIH, parce qu'il suffit de dépister les mères et les mettre sous traitement, et ça marche dans quasi 100% des cas. Donc si on dépiste les mamans suffisamment tôt et qu'on les met sous traitement, il n'y a plus d'enfants qui naissent avec le VIH. Et puis l'objectif beaucoup plus ambitieux Alors un autre objectif ambitieux, c'est plus de décès, puisqu'on a dit qu'on avait des traitements efficaces, et donc normalement, même les gens qui arrivent à du stade sida, si on arrive à les mettre sous traitement, normalement, ils ne devraient plus mourir. Et puis l'objectif beaucoup plus ambitieux, et c'est, si je devais en appeler un de mes voeux, c'est celui-là, parmi les zéros qu'essaye d'atteindre l'OMS, là, donc zéro transmission de la mère à l'enfant, zéro décès du sida, c'est zéro discrimination. Et alors ça, c'est probablement l'objectif dont on est le plus loin. Donc si j'avais quelque chose à appeler à mes voeux, c'est que vraiment le VIH devienne... Moi, j'ai qu'un rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin de structures comme la mienne. Voilà. C'est que le jour où on n'aura pas besoin de coordination... Voilà. Parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une coordination régionale de la lutte contre le VIH ? C'est parce que le VIH est une maladie qu'on a mis à part. Or, il y a 3000 personnes en Bretagne qui sont suivies pour leur infection par le VIH. Ça justifierait pas qu'il y ait une structure de ce type-là si c'était pas une maladie qui était un peu ostracisée, quoi. Voilà, donc, le rêve à terme, c'est que le VIH, ça devienne une maladie comme une autre, voilà, et qu'il n'y ait pas besoin de structures spécifiques pour les prendre en charge. Quoi.
Enjeu de santé touche à sa fin. Deux émissions au sujet du VIH et du sida n'étaient pas de trop, tant il y a de choses à dire sur cette maladie qui reste encore parfois taboue. Comme les autres MST, il est important de divulguer des informations à leur sujet pour mieux les endiguer. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des infos ainsi que le podcast de l'émission sur radiocampusrennes.fr. Pour ma part, je vous dis à la prochaine et comme disait ce grand intellect français, sortez couverts.